Un, deux, test, test, ça marche.
Rebonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez ?
Voilà, c'est bien, c'est super. C'est qui est le groupe là est parti ? C'est qui expliquait Pneuma et Rouard et tout ça, là, tout à l'heure, avec les lunettes ? Heureusement que... Non, c'était très juste. Et un grand merci au groupe de sketch encore, hein. C'est chouette. J'ai l'impression que les messages sont déjà en ligne, parce qu'ils ont déjà été écoutés. Je voudrais vous parler cet après-midi du Saint-Esprit et de la mission. Merci. Mais juste avant de vous parler du Saint-Esprit et de la mission, je voudrais simplement prendre un moment avec vous très court. On a parlé tout à l'heure de la plénitude de l'Esprit. On a vu les trois étapes apostoliques. Le renoncement, la plénitude et la marche. Si je peux dire, la plénitude c'est la source, la marche c'est le fleuve. On n'a pas à se casser la tête pour le fleuve coule parce qu'il y a une source. Mais si cette source est tarie, le fleuve ne coule pas. Et je voudrais, avant de continuer, peut-être prendre un moment avec vous tous ici, peut-être un moment de silence. Est-ce que le Seigneur vous a dit quelque chose ? Qu'il faut peut-être abandonner, qu'il faut renoncer ? Ça serait quand même ballot de continuer à entendre des informations sur le Saint-Esprit et en l'occurrence sur la mission et de rater ce rendez-vous qu'on a constamment avec Dieu à l'endroit de la plénitude. Donc je voudrais simplement vous laisser un moment de silence, vous examiner devant le Seigneur. S'il y a quelque chose que le Seigneur vous a dit, des choses à valider dans votre vie ou quelque chose à confesser, peut-être c'est le moment d'en prendre conscience. Et si vous ne pouvez pas le faire maintenant, parce que ça implique d'autres personnes, peut-être de prendre la décision de le faire. Parce que ce que le Seigneur veut vraiment, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Donc on va prendre un moment ensemble maintenant. Et puis ensuite, je vous parlerai de la mission. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que l'on vient dans ta présence. Et nous te demandons, Seigneur, d'éclairer notre cœur et de nous montrer, Seigneur, si tu as quelque chose à nous dire, si tu veux qu'on dépose quelque chose à tes pieds. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui sonde jusqu'au plus profond de nos cœurs. Merci Seigneur, parce que toi qui sondes le cœur de Dieu, tu peux assurément sonder nos cœurs aussi. Et nous te remercions pour toutes les choses que tu nous montres sur Dieu et aussi sur nous-mêmes. Merci Seigneur pour cette intention bienveillante que tu as à notre égard. Seigneur, merci pour la plénitude à laquelle tu nous donnes accès. Merci Seigneur pour ce fleuve d'eau vive que tu veux voir couler au travers de nos vies et inonder ce pays, inonder cette nation, la Belgique. Seigneur, merci pour ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous parler du Saint-Esprit et de la mission. C'est absolument essentiel que l'on considère que la mission, et je voudrais juste définir la mission, c'est de partager l'Évangile. La mission, c'est de propager le message chrétien. On a peut-être des définitions un peu différentes de la mission. Selon, je vous poserai des questions à l'un ou à l'autre et vous allez peut-être me donner des définitions légèrement différentes. Je voudrais revenir sur ce mot un peu plus tard. Mais Il y a une chose que le Nouveau Testament met très très au clair, c'est que la mission est liée avec la personne du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas remplir la mission de Dieu avec nos propres forces. C'est absolument impossible. Quelle que soit la mission à laquelle le Seigneur nous appelle, nous ne pouvons pas remplir la mission de Dieu avec nos propres forces. La mission de Dieu se remplit avec la force de Dieu. Et quand le Seigneur, après avoir enseigné pendant 40 jours après sa résurrection sur le royaume de Dieu, a quitté ses apôtres, ils l'ont vu s'élever dans la nuée. Et en Actes, chapitre 1 et verset 8, vous avez ce verset qui est très très connu, vous peut-être le connaissez par cœur. C'est le Seigneur, les dernières paroles du Seigneur, parmi les dernières paroles d'un homme sont toujours très importantes. Mais imaginez les dernières paroles de quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie. L'autorité de ses paroles. Donc s'il les a mises en dernier, c'est que ça avait une grande importance pour ses apôtres et pour ceux qui suivraient. Et donc en acte 1, chapitre 1 et verset 8, on voit ces paroles. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais, le Seigneur répond « mais ». Vous savez pourquoi ? Parce que quand il y a un « mais », il y a eu quelque chose avant. Et qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y avait un groupe de disciples qui étaient en train de discuter sur des temps et des moments. Et est-ce que tu crois que le Seigneur va revenir à ce moment-là ou à un autre ? Et Seigneur, c'est quand que tu vas revenir exactement ? Une discussion théologique. Ils étaient en train de couper les cheveux en quatre après avoir reçu l'enseignement du Seigneur lui-même pendant 40 jours sur le royaume de Dieu, et ils étaient en train de se poser des questions sur les comment. Et le Seigneur ne répond pas à ces comment, mais il répond sur les pourquoi. Et il dit, mais vous recevrez une puissance. Ce n'est pas à vous de connaître les comment, les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, pour citer le Maître. Mais vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Combien de fois on a été arrêté, et dans nos églises, et dans nos vies personnelles, par des fausses questions, des questions soi-disant théologiques, sur des comment où on n'était pas d'accord sur le machin du truc, et on a oublié, nous autres chrétiens en Europe, qui sommes gavés des meilleurs livres dans nos armoires, on a dans nos bibliothèques plein de trucs, et on a oublié le « mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ». Nous sommes appelés à être des témoins. Non pas que je dise que d'étudier la parole de Dieu et de se poser des questions est une mauvaise chose. Ne me comprenez pas mal. Mais je dis qu'il y a des questions qui sont des fausses questions et qui nous entraînent sur des impasses dans lesquelles ni vous ni moi ne pouvons trouver les réponses. On les trouvera, certaines de ces réponses, de l'autre côté de l'éternité. Comment Dieu a créé le monde ? Oubliez. Quand est-ce que le Seigneur va revenir ? Oubliez. Ce sont des fausses questions, et il y en a bien d'autres et quelques-unes qu'on l'en pose même à propos du Saint-Esprit, sur des comment. Et le Seigneur ne nous parle pas des comment, il nous parle des pourquoi. Pourquoi ? Et l'une des raisons pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est d'être des témoins. Un témoin est quelqu'un qui, dans un tribunal, est appelé à la barre pour dire ce qu'il a vu. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Quel est ton témoignage ? Pourrais-tu me l'expliquer en 2-3 minutes ? L'as-tu écrit une fois sur une feuille de papier ? Comment tu es devenu chrétien ? Comment tu étais avant d'être chrétien ? Ce qui s'est passé au moment où tu t'es converti ? Et puis ce qui s'est passé depuis et les transformations que le Seigneur a fait dans ta vie et qu'il continue de faire aujourd'hui ? Raconte cette histoire, c'est ton témoignage. Les gens aiment les histoires. Et puis, on ne peut jamais critiquer ou repousser une personne qui dit une histoire. C'est ton histoire. On ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord », c'est ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu as vu. Et puis, les gens aiment beaucoup, tu sais, quand on parle de son passé, et tu peux saisir toutes les balles au bon. « Oh, tu es marié depuis 30 ans, oh, c'est incroyable !» Oui, tu sais, mais avant, on se querellait avec ma femme et on ne pensait même pas qu'on allait se marier, on ne pensait même pas qu'on allait faire notre vie ensemble. Souvent, on avait des problèmes. Oh, comment ça se fait alors que tu es marié depuis 30 ans ? Ben, il m'est arrivé quelque chose. Il y a tellement de manières d'introduire son témoignage auprès de ses collègues de travail, auprès de ses amis, auprès de sa famille. Mais vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Je rencontre quelquefois des chrétiens qui sont hyper passionnés. Mais la passion, la grosse passion, et à Marseille, on sait ce que c'est, hein, la passion. On parle de la passion à Marseille, on est des passionnés. Mais j'ai remarqué qu'en Belgique aussi, hein, vous êtes pas mal passionnés. Vous êtes loin d'être des gens froids, malgré la première apparence. Et souvent, quand tu rencontres des jeunes chrétiens, qu'est-ce qui transparaît de leur vie ? C'est la passion. Ils viennent de rencontrer le Seigneur. Et ils sont passionnés. Ils te parlent de ce qui leur est arrivé. Et tu vois que ça brille dans leurs yeux. Ça dure combien de temps ? Quelquefois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis ensuite, beaucoup de chrétiens vont un peu plus loin, connaissent plus de choses. Et cette passion, on dirait qu'ils la perdent. Vous savez, c'est comme si c'était devenu un peu la routine. Et quand tu parles avec eux, ils sont comme nostalgiques du moment où ils se sont convertis. Alors, ils te parlent de ce qui est arrivé à l'époque, etc. Mais aujourd'hui, ce qui les fait vibrer, tu le vois plus trop. Et tu as envie de dire, mais où est-ce qu'elle est passée ta passion ? La passion du commencement. Il y a des chrétiens qui sont nostalgiques de ce qui leur est arrivé quand ils sont devenus chrétiens. Vous en avez rencontré ? Ça vous est arrivé ? Si ça vous est arrivé, bienvenue au club. Qu'est-ce qui peut alimenter cette passion d'être chrétien ? Qu'est-ce qui peut alimenter cette passion d'être dirigé par le Saint-Esprit ? Mais la mission. Mais un chrétien qui ne se voit pas comme un missionnaire est un chrétien qui fatalement va perdre sa passion. Il va se demander pourquoi est-ce qu'on prie ? Combien de temps est-ce que je dois prier ? C'est jamais assez. Ton culte personnel, il te passionne ? Tu es contente ? Tu es content de ta vie spirituelle, de ton culte personnel ? J'aimerais bien entendre ton témoignage là-dessus. Et je suis sûr qu'à 90%, j'entendrai ce genre de réponse. Je sais que je pourrais faire beaucoup mieux. En fait, je suis frustré de mon culte personnel. Ta lecture de la Bible. Et on va commencer de parler de quoi ? De nombre de versets, de nombre de chapitres, de temps qu'on passe le matin ou le soir ou dans la journée à lire ou à prier. C'est vrai ou pas ? Où elle est passée la passion ? La passion du Seigneur. Et si je posais la question, et comment est-ce que tu évalues ton Église ? Et comment est-ce que tu évalues ton impact sur les gens qui t'entourent ? Est-ce que j'aurais une réponse passionnée ? Ou est-ce que j'aurais une réponse « Oh, je sais que je pourrais faire mieux. » On pourrait tous faire mieux, n'est-ce pas ? C'est un gros piège, cette question de faire mieux. Elle coupe la passion. Mais où sont les chrétiens qui sont passionnés, qui sont vibrants ? Le mot « passion » dans le Nouveau Testament, je dois dire quelque chose. Le mot « passion », je vais refaire le gars du groupe de sketch, du grec et réine, est toujours péjoratif. Vous savez, la passion, c'est quelque chose qui contrôle votre vie. Alors, je vais plutôt parler d'enthousiasme. L'enthousiasme est un terme peut-être un peu plus biblique. L'enthousiasme, c'est littéralement Dieu en moi. C'est ça que ça veut dire. Et quelqu'un qui est enthousiaste fait tout simplement état de la présence de Dieu en lui. Et on rencontre des chrétiens qui sont enthousiastes aussi. Alors, qu'est-ce qui fait un chrétien enthousiaste ? J'ai envie de dire, la mission. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et il me semble que les premiers chrétiens, on ne va pas dire qu'ils étaient parfaits, il y avait des problèmes dans les églises, mais une chose les a caractérisés, c'est leur enthousiasme. Ils ont retourné l'Empire romain comme ça, avec leur enthousiasme. On les a appelés chrétiens, qui veut dire petit Christ, parce qu'ils parlaient de Christ de partout. Et donc, la première fois qu'on a entendu chrétien, c'était comme une moquerie. Encore les petits Christ, les chrétiens. Mais ils étaient tellement enthousiastes qu'on savait de quoi ils parlaient. Ils avaient un message, c'était clair, n'est-ce pas ? Où est passée notre passion en Europe ? La mission. Faire partie de la mission du Seigneur. Être les témoins du Seigneur. Mais comment être les témoins du Seigneur? Comment est-ce que je peux être au service de Dieu, me laisser diriger par le Saint-Esprit dans ma vie pour être un témoin du Seigneur? Je remarque, comme je vous l'ai dit, qu'au bout d'un an, deux ans, souvent, un chrétien qui était tellement passionné perd à un moment donné sa passion. Il perd à un moment donné cet enthousiasme. Il rentre dans une espèce de routine. Et quand on interroge cette personne, eh bien, on voit qu'il manque peut-être quelque chose. Parce que pendant les deux premières années de la vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe? On va à l'étude biblique et on apprend plein de choses qu'on ne savait pas. Chaque étude biblique est une découverte. Et alors, c'est très intéressant quand on apprend des choses, non? Quand on sort d'une étude biblique, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, mais ça me révolutionne complètement ma vie, mais je ne savais pas, etc. Vous voyez? Ou alors, on va à l'église et puis on se rend compte, mais c'est incroyable, c'est cette ambiance qu'il y a dans cette assemblée, mais les rapports que les gens ils ont, c'est des rapports sains, il n'y a pas de problème d'argent, c'est super, quoi, c'est génial. Et on apprend l'église. Et pendant un ou deux ans, mais on est en train de découvrir des bases élémentaires du royaume de Dieu. Et ça, ben, c'est extraordinaire. Un chrétien qui découvre des choses comme ça grandit, et en grandissant, ben, un chrétien qui grandit est enthousiaste, n'est-ce pas? Seulement au bout de deux ans, quelqu'un d'une intelligence moyenne a appris pratiquement tous les fondamentaux de l'enseignement chrétien. La Bible, même s'il ne la connaît pas absolument bien, il en connaît quand même maintenant les grandes parties. Il a entendu beaucoup de prédications. Il sait ce que c'est que l'Église. Il a, disons, une bonne expérience globale et il va moins apprendre. Alors bien sûr, il va continuer d'apprendre, le disciple du Seigneur. Il va apprendre, certains disent, on apprend plus en profondeur. On apprend des choses qu'on savait, mais un peu plus en profondeur. C'est vrai, c'est vrai. Mais il se passe quelque chose qui fait que la personne n'apprend plus autant. Or, nous avons besoin de savoir ce que nous savons d'une façon enthousiaste. Mais comment continuer, persévérer dans cet enthousiasme du commencement? Il y a une autre parole du Seigneur qui est corollaire avec cette parole de « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins ». Il l'a dit peut-être le même jour. C'est dans un autre livre du Nouveau Testament, en Matthieu 28. Il est écrit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ici, le Seigneur est en train de définir la mission. Qu'est-ce que c'est qu'être témoin du Seigneur? Mettez les deux versets ensemble, le verset sur Actes et le verset sur Matthieu 28. Et vous avez ici une définition de la mission que le Seigneur nous demande. Quelle est cette mission? Je l'ai entendu, mais... Aller, mais aller où? On peut aller n'importe où. Annoncer la bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Faire des disciples. Faire des disciples est la seule partie de la phrase à l'impératif, actif. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Toutes les autres choses sont des participes présents. Les baptisants, les enseignants, etc., etc. Comme des conséquences de l'idée centrale, faites des disciples. Elle est là, la mission du Seigneur, de faire des disciples de toutes les nations. Faire des disciples. Est-ce que nous avons cette vision de la vie chrétienne? Le Seigneur l'a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pourquoi est-ce que la vie chrétienne n'enthousiasme plus à un moment donné le chrétien qui est toujours dans la dimension de recevoir, recevoir? Parce qu'une fois qu'on a reçu, et qu'on a reçu les fondamentaux du Seigneur, on ne va plus, oh, je vais parler un petit peu comme on parle chez nous, on ne va plus autant s'éclater si on n'a pas compris que maintenant, ce qu'on a reçu, il faut le donner. Et c'est en le donnant que l'enthousiasme du Seigneur revient dans la vie. Dernièrement, je parlais avec un gars qui est un jeune disciple, c'est un jeune ingénieur qui a beaucoup de boulot, mais voilà, à un moment donné, il y a un camp d'évangélisation et il y a un jeune homme qui s'est converti. Il vient maintenant à l'église. Et ce gars-là est allé voir les anciens en disant, ben voilà, il y a ce jeune qui s'est converti, est-ce que je peux aller le voir pour commencer un petit peu le discipulat avec lui? Les anciens ont dit, mais vas-y, bien sûr. Et donc, il est allé voir ce gars-là, il a commencé des cours de disciples avec lui. Il parlait à ce gars, le soir, il rentre dans sa voiture, il m'a expliqué, Philippe, je rentre dans ma voiture, je mets le contact, et là, je ne peux pas démarrer, j'étais en train de pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, mais c'était tellement beau ce que je lui ai dit. Je lui ai raconté des choses que je savais, mais en lui disant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau l'évangile? J'ai dit, là, tu as eu une expérience, mon gars, qui est déterminante pour toute ta vie. Tu as appris que ce que tu as reçu, tu vas le vivre d'une manière enthousiaste en le donnant. En le donnant. Allez et faites de toutes les nations des disciples. En obéissant au Seigneur, alors je peux te dire que cet enthousiasme, duquel des fois on est un petit peu nostalgique, des premières années quand on était chrétien, revient au galop. Parce que quand on fait des disciples, c'est l'œuvre de Jésus qui passe en nous par son Saint-Esprit. Et alors c'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand on voit que des gens comme vous et moi, on peut être utilisés par Dieu. Quand on sait que c'est le Seigneur qui a parlé au travers de nous, c'est le Seigneur qui nous donne des réponses, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité d'entendre, d'écouter, de comprendre. C'est extraordinaire quand c'est Dieu qui passe par toi. Et l'enthousiasme, c'est Dieu en toi. On ne peut pas être le même quand on laisse le Seigneur passer par nous. Cette mission, ce n'est pas une espèce d'option pour les missionnaires, pour les pasteurs, pour les anciens dans les églises. C'est à tous qu'il a dit. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien qui peut arrêter. Vous avez des barrières, vous avez des mais. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai le contrôle total sur tout l'espace. Et il finit en disant, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, j'ai le contrôle total sur le temps. Vous avez quelqu'un qui encadre son ordre de mission par contrôle total sur l'espace, contrôle total sur le temps. Qu'est-ce qu'on attend pour foncer? On a les pleins crédits de la Banque du Ciel. Le temps et l'espace sont contrôlés par Jésus-Christ et il n'y a rien qui va mettre une barrière, un frein, un obstacle à cette mission. La personne qui nous envoie est toute puissante et il nous le dit. Depuis sa résurrection, impressionnant, très impressionnant. Alors tu vas me dire, mais faire des disciples, moi je ne sais pas. C'est peut-être, il faut se former, je ne pense pas que j'en ai l'étoffe. Faire des disciples, ça ne doit pas être facile. Dans l'Ancien Testament, les Israélites qui avaient été délivrés de l'Égypte ont traversé le désert sous la conduite de Moïse. Vous vous souvenez? Et là, ils ont appris à construire un tabernacle. Ils ont appris les sacrifices. C'est, vous savez, les parties de l'Ancien Testament super fun à lire, le Lévitique, tout ça. Vous aimez? Ils ont appris beaucoup de choses. Et puis, au bout de leur temps d'apprentissage, ça faisait à peu près 2 ans. 2 ans. Vous voyez encore 2 ans? 2 ans de formation. Les disciples, les 12, ont été 3 ans avec Jésus. On est dans le même créneau, 2 ans, 3 ans. Et là, ils avaient compris et appris tout ce qu'ils devaient apprendre. Et au bout de 2 ans, voilà, on est en situation de conquête, la terre promise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, on n'est pas prêt. Il y a des géants. On va se faire tailler en pièces. Il y en avait 2 qui ont dit différents. Josué et Caleb, vous vous rappelez? Ils ont dit, mais c'est un bon pays. il y a le lait, le miel qui coule, il faut y aller. Ils n'ont même plus d'ombre pour les protéger. Ils sont à nous. Dieu nous les donne. Mais tu es fou, on va se faire tailler en pièces. Alors, le Seigneur leur a dit, ok, retournez dans le désert. Et ils ont erré pendant 38 autres années, total. 2 plus 38, c'est 40 ans. Et c'est la nouvelle génération qui est entrée en terre promise. La mission. Le Seigneur, bien sûr, quand il nous donne un ordre de mission, on ne se sent pas de le faire. On se dit, mais ce n'est pas pour moi, je n'ai pas l'étoffe. C'est un bon début. Nous n'avons pas l'étoffe. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. On est bien d'accord. Comme les Israélites ne pouvaient pas se battre contre des géants. On est bien d'accord. Mais, puisque c'est le Seigneur qui les envoie, alors il aurait fallu y aller. Nous n'avons pas l'étoffe, nous ne savons pas faire. Mais le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et donc, nous n'allons pas rester à, mais je ne sais pas. Bien sûr que je ne sais pas, mais avec l'aide de Dieu, puisque c'est le Seigneur qui m'envoie, je le ferai. C'est un appel à la mission. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à répondre à l'appel du Seigneur? La mission, c'est de faire des disciples. Et pas uniquement de faire des disciples, mais de faire des disciples qui eux-mêmes feront des disciples. Combien de disciples as-tu? Combien de disciples formes-tu en ce moment? C'est une bonne question à se poser, hein? On peut connaître toute la Bible en hébreu et en grec, et à la fin du compte se dire, mais combien de disciples je forme? Ça te reprend un peu ces paroles? On est tous passés par là. Mais pourquoi ne pas en faire un sujet de prière? Seigneur, donne-moi un disciple cette année. On commence la mission là où on est. Quand Pierre est sorti de la barque, il n'a pas commencé à marcher sur l'eau juste comme ça, il a commencé à mettre un pied dehors. Donne-moi un disciple, Seigneur. Peut-être tu peux m'en donner deux. Peut-être tu peux m'en donner 12. Peut-être tu peux m'en donner 300. Je parlais avec un homme récemment au téléphone. Je lui demandais, combien de disciples formes-tu en ce moment? Il m'a dit 200. Waouh. C'est quoi que tu utilises comme matériel? On a commencé à discuter. Mais bon, il était absolument là où le Seigneur le voulait. Et comme par hasard, c'était un chrétien enthousiaste. Il a eu des problèmes. Ils ont eu un moment difficile dans leur couple avec un problème, avec un problème de santé d'un enfant, etc. Et pourtant, quand tu rencontrais cet homme, tu ne voyais qu'une seule chose, l'enthousiasme d'appartenir au Seigneur. Mais pourquoi? Parce que tout ce qu'il recevait, il le redonnait. Et donc, il était utilisé par Dieu en permanence. La mission, c'est de faire des disciples et de faire des disciples qui font des disciples. On dit souvent, mais... c'est difficile de faire des disciples. Et en Belgique, ça sera encore plus difficile qu'ailleurs. Non? Je vous arrête. Ce n'est pas le plus difficile en Belgique. Le plus difficile, c'est en France. C'est facile en Belgique. Je plaisante, mais vous avez remarqué que nous, dans le monde francophone, on a un petit peu cette je ne sais pas comment, d'où ça vient, cette mentalité de défaitiste. On pense que ça ne le fera pas. Le Saint-Esprit, qui est effectivement le vent, souffle de Dieu, souffle de partout, sur toute la planète. Depuis la Pentecôte, il est venu, mais on dirait qu'il ne va pas souffler en Belgique. Oui, il va souffler doucement. Et puis on entend des récits, des terres lointaines, où il y a des centaines de conversions. On se dit, waouh, là-bas ça marche, le Saint-Esprit, il souffle fort. Je vais aller en mission là-bas. Quand on fait de la planche à voile, même si le vent ne souffle pas très fort, du moment qu'on met la voile au bon endroit, ça avance. Hein? D'accord? Ok. Peut-être on perçoit que le vent ne souffle pas très fort en Belgique, mais si on met la voile au bon endroit, ça va avancer. Et la voile, mettre la voile au bon endroit, pratiquement, c'est quoi? C'est avoir la foi. La foi dans le fait que le Seigneur nous envoie. Faire des disciples qui font des disciples. Comment tu vas mettre cette voile? Le Seigneur va tout te montrer. Il va te montrer des schémas que tu n'as pas vus encore. Il va te faire rencontrer des gens. Il va permettre des situations. Et l'enthousiasme dans ta vie va devenir juste quelque chose comme le fuel, tu vois. Parce que c'est incroyable quand on voit le Seigneur agir dans la vie au quotidien. J'ai envie de dire vraiment, la mission, Le Saint-Esprit et la mission sont indissolublement liés. Nous avons la promesse du Saint-Esprit pour pouvoir remplir notre mission. La seule chose qui manque, c'est de vouloir lever les voiles et les mettre au bon endroit. Le vent souffle, mes amis. Il souffle en Belgique. Notre chose que nous avons vue, mon épouse et moi, ces 15 dernières années, nous avons vu que le vent souffle et qu'il touche le Seigneur particulièrement. Et dans toutes les dénominations, j'ai l'impression, les jeunes, les plus 18 ans, ne sont pas aujourd'hui ce que les plus 18 ans étaient il y a de cela 15 ou 20 ans. Le Seigneur est en train de faire une œuvre parmi les jeunes. Est-ce que vous le voyez ? Moi, je parle aux jeunes de faire des disciples qui font des disciples, et qu'est-ce que j'ai ? J'ai immédiatement souvent des gens qui ont les yeux qui brillent et qui me demandent immédiatement, on commence quand ? C'est quoi le matériel qu'il faut utiliser ? On se forme où ? Parce qu'effectivement, je connais quelqu'un qui, etc., on fait des groupes de croissance. Commence par quelque chose de facile. Commence par un disciple qui a envie de grandir, par exemple, mais qui a besoin de quelqu'un. Mets-toi à côté de lui et puis enseigne-lui. Prends quelque chose avec lequel tu es à l'aise. Ça peut être plus loin avec Dieu, ou bien le maître et son disciple, ou bien le matériel LVS. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent. Tu vas sur disciple.fr, sur le site du CNEF, disciple.fr, et tu vas avoir plein de ressources. Tu prends la ressource qui te convient le mieux, tu te mets à côté de la personne et tu lui passes ce que le Seigneur t'a donné. Tu sais quoi ? Tu vas lui enseigner des choses de base, mais c'est toi qui vas lui enseigner. Et toi, tu es le programme de Dieu. Parce que le Seigneur, il t'a déjà façonné en tant que disciple. Tu as tellement reçu. Les choses que tu vas dire, tu ne vas pas juste les dire en les lisant. Il y a aussi ton cœur qui est dedans. Il y a ton expérience. Il y a tes anecdotes de vie. Et tout ça, c'est ce qui va faire un disciple. Ce n'est pas de la connaissance que tu vas passer. C'est des appels à l'obéissance. Un ami me dit, ce qui me gêne dans la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas. C'est tout ce que je comprends. C'est tout ce qui est clair. C'est ça qui est quelquefois gênant. Les appels à l'obéissance. Alors je reviens sur ces idées maintenant de prière. Tu pries assez ? Elle est comment ta vie de prière ? On fait une évaluation ? Tu vas te dire quoi ? Je ne prie pas assez, je devrais prier plus. Tu t'es jamais senti comme ça quand on te pose ce genre de questions ? Quelle est la recette du succès dans la vie chrétienne ? La recette du succès se trouve dans la mission. Vous ne trouverez nulle part le mot succès dans le Nouveau Testament. Vous trouverez le terme fructueux. Comment puis-je être sûr que j'ai une vie de prière fructueuse ? Parce que j'ai ressenti la présence de Dieu ? C'est très subjectif, hein ? Parce que j'ai eu des réponses à la prière ? C'est encourageant. Mais est-ce que c'est ça, être fructueux ? J'ai envie de dire, non, ça c'est la base. C'est juste de la fidélité. Le Seigneur nous demande d'être fidèles. Beaucoup de chrétiens vont se dire, il nous a demandé d'être fidèles, pas nécessairement d'être fructueux, d'avoir du succès. Si, le Seigneur nous demande d'avoir du succès. La fidélité est la base. Mais le succès, c'est quoi dans la vie chrétienne ? Comment est-ce que je peux savoir que ma vie de prière est une vie de prière fructueuse ? Quel est le succès dans la vie de prière ? Le succès dans la vie de prière, c'est quand ma vie de prière se multiplie chez quelqu'un d'autre. Et quand ma vie de prière donne une autre vie de prière. Le serviteur a été fidèle, mais comment est-ce qu'il a été jugé ? Parce qu'il avait fait multiplier ce que le Seigneur lui avait donné. N'est-ce pas ? Quand on fait des disciples, on fait multiplier ce que le Seigneur nous a donné. En fait, c'est le Seigneur qui multiplie ce qu'il nous a donné. Et la multiplication, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Comment est-ce que je sais si... Quelle est la notion de succès pour une église ? Est-ce que quand une église a du succès quand elle est vivante, c'est bien organisé. Est-ce que c'est ça le succès pour une église? Non, ça c'est juste la fidélité. Quand on obéit au Seigneur, on grandit. C'est normal que l'église soit vivante et qu'elle soit bien organisée parce que Dieu est au milieu, ça c'est la base. Une église est fructueuse quand elle donne une autre église, quand elle s'est multipliée. Quelle est la rançon du succès pour un évangéliste? Est-ce que c'est d'amener des âmes à Christ? Non, c'est la base. C'est le produit de la fidélité. Un évangéliste qui est fidèle amènera des âmes à Christ parce que c'est son don. Par contre, si cet évangéliste forme d'autres évangélistes et multiplie son ministère, là, il rapporte quelque chose à son maître. Quelle est la rançon du succès pour un responsable d'église? Est-ce que c'est d'avoir un ministère bien réglé, d'être modéré, et toute la liste que vous savez, tu sais, dans Tite et puis dans 1 Timothée? Non, ça c'est la base d'embauche, n'est-ce pas? La rançon du succès pour un responsable d'église, c'est quand il multiplie, qu'il donne d'autres responsables d'église. N'est-ce pas? Quelle est la rançon du succès pour un chrétien? Avoir mené une bonne vie chrétienne, avoir bien prié, bien lu sa Bible, être allé à l'église, avoir pratiqué les 4 pieds de la foi, vous savez, la prière, la parole, la communion fraternelle et le témoignage. Cours sur le discipulat. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est la base. La rançon du succès pour un disciple du Seigneur, c'est quand il donne d'autres disciples du Seigneur. Vous voyez? Ce principe de multiplication est à l'œuvre dans tout le Nouveau Testament. Nous sommes appelés à nous multiplier. Nous avions été appelés, nous les êtres humains, à nous multiplier de façon génétique dans le livre de la Genèse. L'ordre du Seigneur est le même pour l'Église. Multipliez-vous. Hein? Je dirais, faites de toutes les nations des disciples, c'est un ordre à la multiplication. Et si chacun d'entre nous, nous prenons cette mission à cœur, alors nous ferons beaucoup plus que tous les grands programmes, et je ne les critique pas, d'évangélisation qui peuvent exister. Si chacun d'entre nous, nous prenons cette mission du Seigneur à cœur, de faire des disciples qui font des disciples, alors nous nous multiplierons. Nous verrons nos églises se multiplier. Nous verrons les disciples se multiplier. Nous rencontrerons des chrétiens enthousiastes parce qu'ils vivent l'expérience d'être chrétien et de passer ce que le Seigneur leur donne à d'autres. Et ça s'appelle le réveil. C'est quelque chose de très, finalement, qui commence d'une façon très humble par des hommes et des femmes qui décide d'obéir au Seigneur. Vous savez, c'est comme le temple de Salomon. Il était composé de pierres qui étaient taillées dans le secret. On ne faisait pas de bruit, on les assemblait à Jérusalem, et de jour en jour, le temple s'est levé. Il n'y avait pas beaucoup de trompettes, etc. On n'entendait pas un grand raffut, et pourtant cet édifice s'est élevé. Les hommes et les femmes qui répondent à l'appel du Seigneur sont ceux qui contribuent à la construction du temple. J'ai envie de terminer par cet ordre que le Seigneur nous donne, me donne, te donne, de faire des disciples de toutes les nations. Il y a un programme, il y a des choses que nous pouvons faire, elles sont à notre portée. Nous pouvons prendre quelqu'un dans l'Église qui a besoin d'aller plus loin et commencer le discipulat avec lui. Voilà, c'est pas difficile. On pourra peut-être un jour prendre un disciple bien avancé et faire du mentoring avec lui, carrément être son mentor. Ben, c'est du discipulat aussi. On pourra peut-être prendre un jour quelqu'un qui vient juste de se convertir et se mettre à côté de lui et en faire un disciple du Seigneur. On pourra peut-être un jour considérer que les gens qui nous entourent et qui ne sont pas encore chrétiens sont des disciples en devenir. Et plutôt que de chercher une décision ponctuelle, d'essayer de les entraîner avec nous dans un mode de vie d'obéissance au Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des disciples. J'aimerais qu'on félicite ceux qui ont fait la décoration de cette convention. Avez-vous vu, on avait intitulé « Goûter aux fruits de la passion » et vous avez vu, ils ont mis des fruits de la passion de partout. C'est incroyable, hein? C'est génial, non? Vous ne trouvez pas? Et comme l'a dit à un moment donné un frère, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous parlent dans le fruit de la passion. Alors je regarde, hein, j'ai mis ça sur veille, d'accord. Je ne suis pas en train de téléphoner. Le fruit de la passion, ce terme apparaît en français vers 1808, issu d'une savante combinaison des termes latins, flore, fleur, et passion, la passiflore. Cette passion fait allusion à la passion du Christ, que la fleur est censée représenter dans ses différentes étapes. Son cœur figure la couronne d'épines, les pétales représentent les apôtres, les cinq étamines étant alors une référence aux cinq plaies du Christ, et le pistil symbolise les marteaux servant à enfoncer les clous sur la croix. Tu savais ça? Alors, l'action du Saint-Esprit est liée avec ce que le Seigneur a fait. La passion chrétienne, si on veut employer ce terme aujourd'hui, est liée avec l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette œuvre consiste à savoir que nous faisons partie du peuple de l'Alliance. Nous sommes les bénéficiaires d'une histoire millénaire. Le robinet a coulé chez nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit à la conversion. Nous sommes appelés à la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur nous demande de rechercher perpétuellement cette plénitude et d'en faire le but de notre vie. Le reste va découler de cette source qui est en nous, les fleuves d'eau vive. L'œuvre du Seigneur est une œuvre que nous avons reçue, mais qui doit être aussi donnée. Et nous sommes appelés à faire des disciples de toutes les nations. Alors, nous vivrons la passion du Christ, ou si vous préférez, l'enthousiasme de la vie chrétienne. Que le Seigneur bénisse les églises de Belgique, qui bénisse votre pays, que les disciples en Belgique puissent se multiplier. C'est le Seigneur qui le fera, et il le fera au travers des gens comme toi. Merci pour ton attention.